Ce matin, je voudrais qu'on puisse continuer notre étude de Néhémie. On en est arrivé au chapitre 9. La semaine dernière, on a vu ce chapitre 8. Le secret, la force intérieure, vous vous souvenez, c'était quoi le secret, la force intérieure? La parole. Mais la parole, pas n'importe où. La parole à la bonne place, au centre de nos vies. Esdras a pris le relais de Néhémie à ce moment-là et il était sur une estrade. Donc on voit que c'est pas quelque chose de nouveau, les estrades, ça existait déjà. Et lui, il était là, mais il était là pas pour se montrer, il était là pour mettre la parole au centre de la vie de ces Israélites. Et combien on sait que c'est une force intérieure quand la parole, elle est reçue, mais elle est reçue avec joie. Elle est reçue avec la compréhension que Dieu nous aime, que Dieu veut que notre relation avec lui grandisse, pas comme des commandements pesants qui attristent nos cœurs et qui nous lassent et dont on ne peut plus supporter d'entendre les paroles. C'est des fois la parole de Dieu, elle est prise comme ça, mais c'est pas le but de Dieu. Dieu nous donne cette force quand la parole est reçue dans notre cœur avec joie. Et nous arrivons maintenant dans le chapitre 9, et on va même commencer un petit peu le chapitre 10. On arrive à ce moment, un autre moment, où le peuple d'Israël fait quelque chose de particulier. On peut le lire à partir du verset premier. Voilà ce qui se passe. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashbania, Sherebia, Odija, Shebania et Petachia dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Amen. » Première étape de ce passage, on voit que après les moments de réjouissance, alors que le peuple a compris le vrai sens de la parole de Dieu qui nous réjouit, qui nous donne, oui, de reconnaître qu'on est des personnes faillibles et pécheresses, mais qui nous donne de trouver la force. Quand on lit la parole de Dieu, on a la force de que Dieu nous communique pour pouvoir accomplir cette parole. Et le peuple maintenant se retrouve dans un moment où il réalise un petit peu l'histoire, son histoire propre. Et c'est intéressant des fois de s'arrêter dans nos vies et de regarder en arrière sur nos vies, pas pour se lamenter, pas pour se plaindre, pas pour gémir, mais pour regarder comment Dieu a conduit les temps et les circonstances. Et le chapitre 9, une grande partie du chapitre 9, quasiment tout même, c'est une longue prière. On va pas la lire tout en entier ce matin, mais c'est une longue prière qui montre, un des éléments centraux, c'est que ça nous montre la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que vous avez déjà vu que Dieu soit infidèle à un moment donné? Non. Nous, oui. Mais lui, jamais. Il est un Dieu parfaitement fidèle. Et là, dans cette prière qui est faite par les Lévites, conduits par le Saint-Esprit, alors qu'ils ont pris un temps à remettre encore au centre la parole de Dieu, hein, un quart de la journée à lire la parole de Dieu, un quart de la journée à confesser les péchés, et c'est bien d'avoir ces éléments-là. Tout ça, ça se passe dans un contexte de jeûne et de prière. Néhémie, il a été un homme de jeûne et prière personnel, et là, il est conduit par les circonstances à faire ce jeûne avec toutes les personnes qui étaient réunies, et c'est bien d'avoir des temps où on jeûne et on prie de manière personnelle, c'est bien d'avoir des temps où on jeûne et on prie avec nos frères et nos sœurs. Tout ça, on voit que ce sont des éléments qui sont bibliques, et ça permet que nos cœurs puissent être restaurés. Oui, il y a le secret, la force intérieure, ça se trouve dans la place de la parole de Dieu, mais ça se trouve aussi, surtout, dans la pratique de la parole de Dieu. On veut pas juste que ça soit au centre de notre cerveau, mais c'est au centre de nos vies. D'accord? C'est pas la même chose, hein? Centre de nos cerveaux, ça veut dire qu'on est d'accord avec tout ce qui est dit, mais qu'on le met pas forcément en pratique. Or, là, on voit que c'est quelque chose qui est fait, qui retentit. On n'a pas lu ce passage, je vous laisse le soin de le lire aussi dans le chapitre 8, verset 13. Ils se rendent compte, en lisant la Bible de l'époque, ils se rendent compte qu'il y a une fête qu'ils n'avaient pas fait, la fête des cabanes. La fête des cabanes, c'est vous, si vous voulez, en plus simple, c'est une semaine de camping à la maison. C'est-à-dire qu'ils, partout dans leur maison, dans leur cour, ou sur leur toit, parce qu'ils avaient des toits plats, ils devaient se construire des cabanes pour se souvenir du temps où ils étaient esclaves en Égypte et où vous étiez sous des tentes dans le désert, pour souvenir de tous ces moments-là et de souvenir de la délivrance que le Seigneur leur a accordée. Parce que des fois, on est là, installé dans notre belle maison, on a tout ce qu'il nous faut et on oublie comment le Seigneur nous a fait passer par tout ce chemin. Alors, il y avait une fête pour le peuple d'Israël, pour vivre ces choses-là. Et ils l'ont fait parce qu'il y avait une joie dans leur cœur d'accomplir la volonté de Dieu. Ils l'ont fait, c'était un moment un petit peu festif. Imaginez que on fasse ça un jour, tiens, ça serait intéressant. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais... Imaginez un petit peu cette ambiance particulière où on n'utilise plus la gazinière pour se faire à manger, mais on doit faire le feu dans le jardin et tout ça. C'est tout cet aspect qui était donné. Et en tout cas, ils étaient dans cette atmosphère de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais dans cette prière, ce qui m'a interpellé le plus, c'est le mot « alliance ». Et on voit que à la conséquence de cette prière qui a retenti, c'est que le peuple a voulu renouveler l'alliance. C'est pour ça que le titre du message, il est tout simple, c'est l'alliance renouvelée. C'est-à-dire qu'il y avait eu une alliance qui avait été faite et elle est rappelée. Si vous lisez la prière, on va lire la première partie. C'est au verset 6. Si vous lisez tout ce passage, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs alliances qui sont citées. Ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est de savoir, avant de rentrer vraiment dans le texte, c'est de savoir qu'on pourrait résumer toute la Bible, toute l'histoire de l'humanité même, avec plusieurs alliances. Et ce matin, on n'a pas le temps de voir tout ça, mais je vous exhorte à le faire, à réfléchir à cela. L'alliance qu'il y a eu en Éden, l'alliance qu'il y a eu avec Adam, l'alliance qu'il y a eu avec Noé, et il y a des signes. En fait, il y a un schéma qui est à chaque fois le même. Il y a un fondement de l'alliance. Il y a un événement déclencheur, il y a une parole de Dieu, il y a un sacrifice, il y a du sang qui est obligé de couler, il y a un signe, il y a quelque chose qui est là qui permet de se souvenir de cette alliance, il y a une condition, parce que c'est une alliance, c'est entre deux parties, et il y a un engagement des deux parties. Et il y a des conséquences à l'alliance. À chaque fois qu'il y a une alliance dans la Bible, on se rend compte qu'il y a ça. Et on pourrait presque faire le parallèle avec le mariage. Pourquoi on a ça autour de du doigt? Comment ça s'appelle d'ailleurs? Une alliance, parce que le mariage, c'est une alliance aussi. D'accord? Mais on va étudier ce matin, on n'a pas le temps de voir tout ce que j'ai cité, on va voir l'alliance d'Abraham, de Moïse, de Néhémie, puisqu'ils font alliance, et surtout, la nouvelle alliance. Parce que celle-là nous concerne directement. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous vivions. Mais ce qui m'interpelle dans le verset 6, on peut le lire, c'est « Toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Dans une alliance, c'est comme un contrat, c'est comme quelque chose, un accord qui contraint deux parties. Mais là, nous voyons que la première partie, la première personne qui est concernée par l'alliance, c'est pas n'importe qui, c'est le Dieu créateur de la terre et du ciel. C'est lui le premier qui a signé le contrat. C'est lui le premier qui s'est engagé. Et quand on fait une alliance avec quelqu'un, il vaut mieux que la personne en face, elle soit sérieuse. On est d'accord. Si on doit acheter une voiture, si on doit acheter n'importe quoi, si on travaille avec quelqu'un, c'est la même chose. Il faut que la personne en face soit sérieuse. Là, on n'a pas de risque. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Dieu saint, parfait, juste. Et c'est même une grâce de réaliser que le Dieu saint et parfait, c'est lui qui nous propose d'entrer dans une alliance avec nous. Non, Dieu n'est pas un Dieu lointain, non, Dieu n'est pas un Dieu qui n'est indifférent à notre sort, mais il veut faire alliance, il veut qu'il y ait cette relation profonde avec lui. Et combien ça nous touche de savoir que notre Dieu, il a son regard sur nous, et qu'il est dans cette démarche de proposer cela. Alors ça commence au verset 7, après, avec ce rappel de l'alliance. C'est toi, Éternel, Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu fis alliance avec lui, et tu lui promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu parole, car tu es juste. Amen. Vous voyez que là, l'alliance est rappelée. Et on va faire point par point. Le schéma de l'alliance, on le retrouve. On ne retrouve pas tout dans ce passage-là, mais quand on lit la Genèse, on se rappelle de ce qu'il est écrit. Et on va voir surtout qu'est-ce que ça nous apporte à nous. Quel est le fondement de l'alliance avec Abraham? Quel a été l'événement déclencheur? Le sacrifice. Non, c'est avant. Le départ, oui. Tout simplement, l'appel de Dieu à Abraham quand il était dans son pays, à Ur en Chaldée, et que Dieu lui demande de partir. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et c'est à ce moment-là, quand cet appel a retenti, quand cet homme qui était pourtant bien installé dans sa famille, dans son pays, avec les siens, avec tout ce qu'il aimait, avec les biens qu'il avait, quand Dieu lui demande d'aller dans un endroit dont il sait même pas où c'est qu'il va aller. Mais Dieu l'appelle à avoir cette relation particulière avec lui, à avoir cette communion avec lui, et c'est vraiment déjà une image de ce que Dieu veut pour nous, mais Dieu le fait sous la forme d'une alliance. Et dans le chapitre 12, on a l'appel de Dieu, c'est le fondement, mais cette alliance, elle est scellée par le sacrifice. On peut lire au chapitre 15. Alors c'est, je sais pas si vous avez déjà lu ces textes, Genèse chapitre 15, les plus anciens sûrement. Mais c'est un texte un petit peu particulier parce que dans notre monde d'aujourd'hui, tout aseptisé et hygiénique, il y a des éléments qui nous plaisent pas trop. Parce que regardez ce qu'il est dit. Il y avait des coutumes à l'époque, elles étaient un petit peu spéciales quand même. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si quelqu'un faisait ça, il aurait des personnes de la SPA et des autres défenseurs des animaux qui s'occuperaient de lui. Heureusement, Dieu ne nous demande pas de faire ces choses aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Et à l'époque, il y avait une grande valeur. Genèse chapitre 15, verset 9. L'Éternel lui dit à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les animaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit « Je donne ce pays à ta postérité. » Amen. Après, il lui donne exactement les dimensions géographiques, mais vous avez vu, ce passage c'est quand même particulier, prendre des animaux, les couper en deux, par le milieu, les mettre un d'un côté, l'autre de l'autre. En fait, ça fait référence à une coutume qu'il y avait à l'époque. Quand on faisait alliance avec quelqu'un, il fallait faire cela, prendre un animal, le couper en deux. Donc, vous imaginez la scène. Hein, et puis là, c'est pas un seul animal, c'est 3 animaux qui ont été faits, plus les oiseaux. Et il fallait marcher au milieu. Et les deux parties marchaient au milieu. Et en fait, la pensée, c'était, si je ne tiens pas parole par rapport à ce à quoi je m'engage, alors que je finisse comme ces animaux. C'était ça, la pensée. C'est quand même fort, hein. Imaginez finir coupé en deux. Mais ça fait référence à l'hypocrisie dont Jésus parlait, où on est une double personnalité. On montre une apparence et en fait on est tout autre. Et voilà, ça, c'était pour attester le serment, attester l'alliance. Et c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que dans ce passage-là, nous voyons que Dieu s'est manifesté sous la forme de flamme. Il est passé, lui. Mais Abraham, lui, il a été endormi parce qu'il y a eu une torpeur particulière, une obscurité. Celui qui s'est engagé à 100% dans l'alliance, c'est le Seigneur. Et Abraham, il n'a été que le bénéficiaire. Lui, il a pris tous les bons côtés, les bénédictions. Et il a quand même eu un aperçu de la difficulté qu'allaient connaître ses descendants. Et c'est ça, cette crainte, cette angoisse, c'est parce qu'il a ressenti prophétiquement tout ce qui allait se passer lors de l'esclavage en Égypte. Mais Dieu lui a donné une promesse, ce pays, il est pour toi. Et voilà ce qui se passe quand Dieu fait alliance avec nous. À un moment donné, il demande qu'il y ait un sacrifice sanglant. Alors, aujourd'hui, on sait très bien que Dieu ne demande pas que notre sang soit versé. À l'époque, c'était les animaux, mais ça suffisait pas les animaux, il a fallu qu'il donne son propre fils. Ça, on y viendra. Mais en tout cas, voilà, le sang qui a scellé l'alliance, on le voit dans ce passage. Et on voit qu'on a un Dieu qui est fidèle. C'est d'ailleurs, quand on a lu ce verset dans Néhémie, on voit que c'était la conclusion de ce passage avec Abraham. Tu as tenu ta parole, car tu es juste. Et souvenez-vous que ce sont les Lévites au temps de Néhémie qui sont en train de rappeler cette histoire. Et eux, ils sont où à ce moment-là? Où c'est qu'ils se trouvent? À Jérusalem. C'est où Jérusalem? En Israël. C'est quoi Israël? Est-ce que c'est pas le pays correspondant? Mais si. Et donc, ils ont besoin de se souvenir que déjà le fait d'être présent dans le pays d'Israël, c'est parce qu'il y a l'alliance d'Abraham qui est en train de s'accomplir. Elle est toujours valable. Ils sont les descendants d'Abraham. Et quel était le signe que Dieu a donné par rapport à l'alliance qu'il a faite avec Abraham? Vous qui connaissez la Genèse. Quel est le signe qui différencie les descendants d'Abraham des autres? La circoncision. Vous le trouvez, je crois que c'est le chapitre 17 ou 18. Vous trouvez que Dieu a donné ce signe pour faire la différence justement avec les autres peuples. La circoncision de chair. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que le signe qui nous différencie des autres personnes, non pas qu'on soit meilleur que les autres, mais qu'est-ce qui se passe qui fait la différence dans notre cœur? C'est justement la circoncision du cœur. Colossiens chapitre 2 verset 11 nous dit « C'est en Jésus-Christ que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. » C'est-à-dire que notre ancienne vie est retranchée et Dieu nous donne un cœur nouveau, nous donne une vie nouvelle. Et ça, c'est ce qui nous permet de savoir que nous sommes appelés enfants de Dieu. Quelle a été la condition pour que l'alliance d'Abraham se concrétise dans sa vie, tout simplement? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Parce que même s'il a été un petit peu spectateur de l'engagement de Dieu, il a fait des choses. On en a parlé tout à l'heure. L'obéissance, oui, sacrifice, tout ça. Le partir de son pays, justement, d'amener toute sa famille, tout un long voyage, sans savoir où il allait. Mais tout ça, c'est le résultat de quoi, finalement? La foi. On revient dans Genèse chapitre 15. Et au verset 6, il est dit, justement, ce que l'apôtre Paul va reprendre plus tard. Exactement, Abraham eut confiance en l'Éternel, ou Abraham eut la foi en l'Éternel, et Dieu le lui imputa à justice. C'est-à-dire que Dieu lui a fait simplement selon sa foi. Là, le contrat, c'était l'engagement, les promesses de Dieu pour la vie de cet homme, mais elles n'auraient été valables. Elles n'ont été valables que parce que cet homme, il a mis sa foi et sa confiance dans ses promesses. Et une des promesses, c'était qu'il allait avoir un héritier de sa chair. Pourtant, il avait un certain âge quand il a reçu la promesse. Et je crois qu'il avait 75 ans, je crois, la promesse de l'héritier. Mais quand il a vu l'accomplissement de la promesse, vous vous souvenez, c'était à quel âge? 100 ans. C'est fou. 100 ans. Bon. Encore lui, ça pourrait passer, mais son épouse avait 90 ans. C'était pas possible, humainement, qu'il y ait un enfant. Mais quand Dieu a déclaré quelque chose, quand Dieu s'engage à quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se réalise. Si on a la foi, et Abraham, il est connu, il est rapporté par l'apôtre Paul comme le père des croyants, le père de tous ceux qui ont la foi. Et c'est vrai qu'il y a toute une dimension de l'alliance d'Abraham qui concerne Israël. Il y a des choses qui sont encore à s'accomplir par rapport à cette alliance d'Abraham. Mais l'apôtre Paul nous montre dans les différentes lettres, Galates, Romains, Colossiens, nous montre que nous sommes les héritiers d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes de ceux qui ont été circoncis dans notre cœur et nous sommes maintenant aux yeux de Dieu des héritiers de cette alliance que Abraham il a reçue. Et si nous voulons que la bénédiction de Dieu qui repose sur Abraham repose sur nous, la condition toute simple, c'est que nous ayons la foi La foi dans les promesses, la foi dans la parole. Et c'est, pour Néhémie, ça a une répercussion particulière. Quand il rappelle ces choses, les Lévites, au temps de Néhémie, eux, ils sont dans ce pays, mais même si la muraille est refaite, il y a quand même la désolation tout autour. Il y a quand même le poids d'un empire qui est là et qui les oppresse. Et ils sont là en train d'expliquer, de rappeler au peuple, au travers de cette louange, que Dieu, il est fidèle. S'il les a ramenés là, c'est qu'il va continuer de les bénir. La bénédiction qu'Abraham, il a vécue, elle peut être aussi la leur. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que la bénédiction d'Abraham peut être aussi la vôtre. Non pas parce qu'on est meilleur qu'Abraham, non pas parce qu'on est égal à Abraham. La seule condition, c'est la foi. La confiance dans les promesses du Seigneur. Et le verset 24 de la prière dans chapitre 9 de Néhémie, il est dit « Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. » Il y a toutes sortes de péripéties que l'on connaît, la visite en Égypte. Hein, c'était pas du tourisme, c'était des moments difficiles, mais il y a un Dieu qui a manifesté sa gloire pour sauver ce peuple. Et aujourd'hui, en tant que héritier des promesses d'Abraham, parce que nous appartenons à Christ, nous voulons vivre aussi cette réalité. Vivre l'alliance de foi avec Dieu. Deuxième chose que nous voyons dans Néhémie chapitre 9, c'est au verset 14. Tu leur fis connaître ton saint sabbat. Et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut du ciel du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. C'est une alliance dans l'alliance. Là on parle de Moïse. L'alliance d'Abraham elle est valable et encore valable aujourd'hui. Mais l'alliance de Moïse maintenant c'est ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a été un petit peu le moment charnière pour que l'alliance qui a été faite à Moïse commence. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier, d'événement ? Le Sinaï. La rencontre de Dieu sur le Sinaï. Il y avait déjà eu une première rencontre, mais là, ça concernait que Moïse, son appel. Mais Dieu lui avait dit, voilà le signe que c'est moi qui t'appelle. Un jour, tu vas revenir. Et avec le peuple, tu vas revenir sur cette montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne ? Les 10 commandements, voilà. Dieu a donné ses lois à son peuple. C'est ce qu'on vient de lire. Hein. Tu leur prescrivis par Moïse des commandements, des préceptes et une loi. L'alliance, elle a été débutée, elle a commencé avec le don des 10 commandements. Un sacrifice aussi, dans Exode chapitre 24, verset 7, je le lis pour vous. Moïse prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang du sacrifice donc qu'il venait de faire et le répandit, il fit une aspersion sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » C'était une coutume aussi un petit peu particulière. Hein. Ne vous inquiétez pas, on fera pas ça parce que ça sert à rien. On sait maintenant spirituellement que c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Mais voilà, il y a eu du sang qui est venu sceller l'alliance que Moïse il a faite avec Dieu et avec tout ce peuple. Et le signe, quel est le signe qui rappelle justement qui était normalement le symbole de tout ce qui s'était passé sur la montagne ? Alors, quel est le signe ? Non, le buisson ardent, c'est pour Moïse, ça, mais le visage, non, c'est quand Moïse est descendu, les tables de pierre, tout simplement. Quel est le souvenir que Moïse a ramené de son voyage sur la montagne ? La carte postale, c'était quoi ? C'était les tables de pierre. Même si la première fois qu'il est redescendu, ils ont passé un mauvais quart d'heure. Mais la deuxième fois, le souvenir. Et où c'est d'ailleurs qu'ils ont rangé ça ? L'arche, il s'appelle comment ? L'arche de l'Alliance. L'Alliance que Dieu a faite avec son peuple. Le souvenir. Et il s'est bien dit, tu mettras dans l'arche toutes sortes de choses, la manne, tu mettras la verge fleurie d'Aaron, tu mettras toutes sortes de choses, mais les tables de pierre, pourquoi ? Pour te souvenir de cette loi, ces ordonnances que Dieu te donne, pour te souvenir des termes de l'alliance. Et quelle est la condition ? La condition, c'est simplement d'obéir comme ils l'ont fait. Nous nous engageons, nous voulons obéir en toutes choses à ce que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. On sait très bien que ce qu'ils ont dit, c'est une chose, et ce qu'ils ont fait quelque temps après, c'en est une autre. Hein ? Mais la condition pour, quand on est dans l'alliance de la loi, c'est l'obéissance totale. On est d'accord. Mais c'est aussi la difficulté pour l'être humain qui est pas parfait. Et justement, quand Dieu a donné la loi aux hommes, le but de donner la loi de Dieu aux hommes, c'était pas de faire des surhommes, c'était de leur montrer combien ils étaient faibles. Ils avaient besoin d'un Dieu, d'une communion avec leur Dieu. Ils n'avaient pas besoin de commandements tout seuls. Ils avaient besoin d'être en communion avec Dieu pour pouvoir accomplir les commandements. Sinon, c'était impossible. Et je crois qu'il y a plus de 600 commandements. Il y en a une grande partie qui sont négatifs, il y en a qui sont positifs. Mais accomplir tous ces commandements, c'était vraiment mission impossible pour les hommes que nous sommes. Et on sait par l'histoire d'Israël et par toute cette prière qui est rappelée, on voit qu'à un moment donné, ils ont rejeté derrière eux, derrière leur dos la loi de Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu et ils n'ont pas voulu accomplir sa volonté. Et le résultat qui s'en est passé, ce sont les conséquences négatives. La déportation dans d'autres pays, la désolation, etc. Mais Dieu nous rappelle au travers de cette prière aussi qu'il y a des conséquences positives quand on met la loi de Dieu en pratique. On l'a lu un petit peu au verset 15. Dieu qui donne du pain quand ils avaient faim, qui fait sortir de l'eau du rocher. Dieu a pourvu de manière quotidienne à leurs besoins. Et ça, c'est le Dieu que nous avons, frères et sœurs. Ce qu'ils ont vécu, nous pouvons le vivre. On a de tellement nombreux témoignages de personnes qui ont vécu à un moment donné un besoin particulier et qui ont vu la main du Seigneur. Et peut-être ça vous est arrivé à vous déjà, mais combien de fois on a entendu des personnes qui ont vécu ces choses-là? Je lisais encore un témoignage d'une dame, qui était seule, qui avec son enfant qui est parti à l'université, qu'elle devait soutenir dans les frais, et elle avait l'habitude de se retrouver avec une amie à elle dans un salon de thé pour boire un café, puis pour partager un moment à parler du Seigneur, à s'exhorter. Et là, elle venait d'être licenciée parce que la grande entreprise dans laquelle elle était, il y avait une pression dessus, il y avait une opération de licenciement, et elle se retrouvait à avoir un petit travail avec pas grand-chose comme ressources. Et avant, elle avait un certain confort de vie, et là, elle était obligée de se serrer la ceinture. Alors, quand elle a retrouvé son amie dans le salon de thé, elle était en train un petit peu de se plaindre et de dire combien c'était bien avant, le passé, l'argent, c'était facile. Et là, il faut suer, et là, c'est difficile. Et donc, au lieu de s'exhorter, ils étaient en train de se plaindre. Puis, à un moment donné, elle a commencé à se rappeler d'un moment dans sa vie où Dieu est intervenu. À un moment donné, elle était en train de crier parce que c'était un temps difficile, de dire « Seigneur Dieu, c'est tellement difficile que je n'ai même pas de produit de vaisselle ni de shampoing pour laver les cheveux de mes enfants. » Elle en était à ce point-là. Et alors qu'elle a fait cette prière, il y a une autre amie à elle qui est venue la voir et qui est venue avec une poche sous le bras. Et elle a dit « Voilà, je suis désolé, j'ai pas pu acheter autre chose, mais j'ai eu à cœur de t'acheter un shampoing et un produit vaisselle. Je suis désolé, j'ai que ça. » Et là, la dame, forcément, en face, elle qui savait la prière qui était montée vers Dieu, elle s'est mise à pleurer et elle a commencé à remercier son Seigneur et à se rendre compte que c'était pas un Dieu qui était lointain, qui est un Dieu qui a créé toutes les galaxies. Oui, c'est ça, il a créé tout ça. Mais il s'intéresse aussi à nos petits besoins. Et le fait de se souvenir de ça alors qu'elle parlait avec son amie, ça l'a encouragée. Et ça lui a donné de prendre un petit peu du cœur à l'ouvrage et de dire « Allez, maintenant je vais faire un bon CV, je vais faire toutes les démarches pour trouver un nouvel emploi. » Et donc ils se sont dit « Dans un mois, on recommence, on reprend un café et on reparle de ce qui se sera passé. » Un mois passe et les dames reviennent. Et donc elle lui dit « Alors, ton emploi, comment ça va ?» Et elle lui dit « Voilà, j'ai pris mon CV, j'ai fait toutes les démarches, je suis allé voir les entreprises, j'ai épluché toutes les annonces. » Et puis finalement, je me suis rendu compte que celui que j'avais, c'était le meilleur emploi par rapport à tous les autres. Parce que j'avais du temps à consacrer à ma famille, du temps à consacrer à mon Dieu. Et je me suis rendu compte que ce qui m'empêchait de réaliser la grâce de Dieu, le cadeau que Dieu m'avait fait, c'était mes plaintes, c'était mes murmures, c'était mes gémissements. Mais dès l'instant où j'ai compris que Dieu prenait soin de moi, alors mon regard sur les choses a changé et maintenant j'ai toujours le même travail, mais je suis heureuse. Voilà ce qui se passe. quand on laisse le Seigneur agir dans notre cœur et quand on réalise que c'est le Dieu qui a nos vies entre ses mains, il est celui qui peut pourvoir à tous nos besoins, que ça soit des besoins matériels, que ça soit des besoins financiers, que ça soit des besoins intérieurs, le Seigneur, il est capable de répondre à tout cela parce qu'il est merveilleux. Et c'est exactement ce qui nous est rappelé. Oui, quand on met la loi de Dieu en avant, dans le centre de nos vies, alors vous inquiétez pas, le Seigneur, il va être derrière pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. On voit un Dieu qui est capable de diriger. Au verset 19, il est question que la colonne de fumée la colonne de feu, oui, qu'il ait dirigé la nuit, et la nuée qui était là aussi la journée pour savoir où c'est qu'il se rendait. Dieu est celui qui veut nous diriger dans toutes les différentes décisions que nous pouvons prendre jour après jour. Il y a des décisions. On n'a pas besoin de prier 3 heures pour savoir quelles chaussures on va mettre, par exemple. D'accord. Enfin, j'espère que vous faites pas ça, hein. Mais il y a des décisions importantes quand il s'agit d'acheter une maison, quand il s'agit d'acheter même une voiture, de faire un certain crédit, etc. C'est des décisions qui ont un certain enjeu. Et c'est bien dans ces moments-là de prier. Mais prier ne veut pas dire croiser les bras et attendre que Dieu signe à notre place. Prier veut dire, Seigneur, je te demande de diriger toute chose, mais je veux avancer. Je crois que tu vas me conduire. Et c'est tellement bon quand on fait cela. Ça, c'est les conséquences positives. Dans le verset 16, 17, 18, 19, verset 26, 27, 28, 29, 30, on voit toutes les conséquences négatives de ceux qui désobéissent. À un moment donné, on voit un Dieu, au verset 29, il a cette expression, « Tu les conjuras de revenir à ta loi. » Il y a une alliance qui est là, il y a un Dieu qui a écrit dans son alliance, « Si tu mets en pratique toutes ces choses, tu seras béni dans ton champ, tu seras béni dans la ville, le fruit de tes entrailles sera béni, toutes les choses que l'on touche. » Et on voit des personnes dans la Bible qui ont vécu ce genre de choses. Ça, c'est l'alliance de la loi. Mais il y a aussi le mauvais côté, le revers de la médaille. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Il y a une malédiction pour celui qui refuse la parole de Dieu. Alors c'est la Bible qui le dit, hein, c'est des termes qui sont forts, mais c'est quand même ce que dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand toutes ces choses sont remontées dans le cœur des Lévites et sont sorties dans une prière collective, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ce peuple. Voilà pourquoi au verset 32, il y a cette réaction qui est là, qu'on peut lire ensemble. « Maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand et puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance. » Écoutez bien les mots qu'ils disent. « Toi qui gardes ton alliance. »